This is Infinite TV from Infinite Universes. Look.
J'ai un Gilles de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
Someone once told me time is a flat circle.
My log has something to tell you. Do you know it?
I don't believe we've been introduced.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 85 d'un épisode et j'arrête, le podcast de l'association française de critiques de séries, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Pénis, clitoris, vulve, vagin, fellation, double pénétration, 69, sodomie, masturbation, levrette, voilà tant de mots-clés à faire trembler une vidéo monétisée sur YouTube. Mais pourquoi ces termes sont-ils encore tellement tabous? Les séries peuvent-elles contribuer à leur banalisation?
Next one.
Alors ces mots qui font peur hein, sont les ennemis de Gillian Anderson, qui incarne une sexologue émérite dans la récente série de Netflix qui s'appelle Sex Education. Ils seront aujourd'hui notre point d'ancrage pour comprendre comment les séries évoluent dans la manière de parler de sexualité et notamment de sexualité adolescente. Je suis Marie Turcan de Numérama et je compte bien sur mes camarades autour de la table pour m'empêcher de dire bite à... Alors Marion Olité et Florian Caisse de Combini.
Salut.
Salut à vous. Salut Marie.
Et Julia Baudin de TV Mag.
Bonjour, t'as déjà dit bite et putain, après 20
déjà
secondes
tout
d'émission,
dit. Ça commence très fort. Il faut savoir qu'avant l'enregistrement, Julia et moi, on s'est entendu pour le meilleur mot pour dire verge ou phallus ou bite et on a chacune un mot un peu différent.
Toi, c'était... toi, t'as 15 ans, donc c'est tub. Hein, et moi, comme j'en ai 48, c'est membre ou verge.
C'est membre.
membre.
Alors, je vous propose ensemble de nous demander pourquoi Sex Education est tellement ovationnée et ce qu'elle change vraiment dans le paysage actuel des séries. Qu'est-ce une scène de sexe réaliste? Faut-il vraiment montrer des organes génitaux pour être excitant? Le renouveau du sexe ne passerait-il pas avant tout par les mots? Avant tout, un petit extrait qui justement contient beaucoup de fois le mot qui choque.
It's my vagina. No, that is my vagina in the photo.
Sit.
No, it's my vagina.
No, thank you, Maeve. Settle down, please.
You're both wrong. It's my vagina.
It cannot be all your vaginas.
I also have a vagina.
Well, congratulations. Please sit down.
It's my vagina.
Alors, avec Sex Education, Netflix a mis la main sur sa première série vraiment bienveillante à destination des ados, mais pas vraiment seulement. Hein. Ça peut aussi être vu par des adultes. Ici, on montre des relations sexuelles dans ce qu'elles peuvent avoir de plus bizarre, gênante, mais aussi très excitante. On montre aussi, par exemple, la photo d'une vulve en gros plan. On y voit également une ado qui prend du plaisir à se masturber. Moi, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on nous dit, en fait, il n'y a pas qu'une seule sexualité. Vous avez le droit de faire et dire ce que vous voulez. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Marion?
Oui, surtout dans les séries du genre du teen drama. En fait, là, cette série, elle est assez révolutionnaire. Elle brise des tabous. On n'avait jamais vu, une photo de vulve comme ça. Avec des poils. Et qui, en plus, est utilisée vraiment dans la narration. C'est justifié, quoi. C'est pas un truc gratuit qui se balade comme ça. On n'avait pas eu des scènes aussi fortes que les scènes It's My Dick, It's My Vagina. Enfin, c'était les adolescents, voilà, qui nomment les parties de leur corps, qui se réapproprient leur sexualité, à qui on donne des clés pour la comprendre aussi, parce que à cet âge-là, on est complètement clueless. Et jusqu'ici, moi qui ai vu quand même un bon paquet de séries adolescentes, c'était toujours fait de manière un peu métaphorique, un peu des fois très maladroite, un peu trop puritaine. Moi je la trouve géniale, cette série.
Florian, est-ce que toi tu vois quelque chose qui un élément qui la différencie vraiment des autres?
Ouais, c'est le côté inclusif en fait, toutes les sexualités, tous les genres. Donc il y a les garçons et les filles qui explorent leur sexualité, leur corps et tout ça, mais c'est aussi des garçons qui peuvent être homosexuels, des filles qui peuvent être lesbiennes, qui peuvent être bisexuelles, ou aussi qui peuvent pas forcément avoir un intérêt particulier dans le sexe ou qui savent pas s'y prendre. Donc c'est ce côté-là assez inclusif et en même temps qui est hyper pédagogique, justement, où on apprend avec eux à découvrir leur corps et aussi le nôtre, du coup, à travers eux.
Il y a aussi même une personnage de fille qui a envie d'avoir une relation sexuelle pendant toute la saison 1 et puis qui se retrouve à avoir des complications physiques. Et ça aussi, parler de la douleur des relations physiques, de ce genre de... qui peuvent être des maladies, c'est aussi une première, j'ai l'impression, Julia.
C'est juste qu'elle est psychiquement verrouillée, il n'y a pas de douleur physique particulière, elle est juste pas prête, et d'ailleurs ils le disent très bien, elle se fantasme une sexualité qui est pas du tout aboutie, puisqu'elle n'est même pas puisqu'elle est toujours vierge. Elle cherche à faire une première expérience qu'elle dessine depuis des années à travers toutes sortes d'animaux monstrueux et de bandes dessinées type manga.
Il y a des poulpes,
avec beaucoup de tentacules et en fait, elle n'y arrive pas parce que tout ce qui relève de la sexualité chez elle est un univers fantasmé posé sur le papier. C'est intéressant à ce titre-là. Mmh. Mais cette série, elle est vachement bien. Elle est formidable parce qu'elle est effectivement très bienveillante, parce qu'elle est inclusive. Après, j'ai deux ados qui l'ont regardée, qui ont adoré et qui m'ont simplement dit, dans notre lycée, il se passe pas 20% de ce qui se passe dans cette série-là. Donc, c'est l'aspect inclusif qui est intéressant, effectivement. Enveloppée dans une bienveillance qui la rend tout à fait qui la rend très admissible et même très très agréable, pour ne pas dire presque pédagogique, mais au sens vraiment bienveillant du terme.
Alors justement, nous on est critique de séries et parfois on est peut-être un peu justement critique à propos de ces séries qui sont peut-être un peu trop didactiques, un peu trop pédagogiques. Est-ce que ça a tendance à enlever un peu de la poésie dans cette série?
Je trouve pas, en tout cas pas dans ce cas-là précis, parce que il reste une très grande poésie. La poésie du paysage, la poésie des lieux, la poésie de la mère psy des Glingos, super intrusive, alors que tout chez elle passe par la parole et que elle traite les autres, mais elle est incapable de considérer son fils comme un être à part entière, qui ne soit pas une partie d'elle.
Qui est en fait un peu un cliché de la mère.
Qui est un cliché de la mère psy et qui est là extrêmement caricaturale, mais qui est jamais. Elle lui fait du mal, mais en même temps, elle est très bienveillante. Puis la maison est jolie. Il y a quelque chose de très... Et puis, il y a une sensualité quand même dans tout ça, qui, même dans les scènes les plus « trash », entre guillemets, qui fait que c'est pas très agréable.
Et puis, tout le monde veut épouser Gillian Anderson aussi.
Oui.
Mais moi aussi, moi la première. Mais moi, depuis deux Falls, je veux épouser Gillian Anderson.
Le côté pédago est aussi, je trouve, très amené, mais sous une couche d'humour et de. On parlait de, il y a quelques podcasts du politiquement incorrect, mais il y a quand même des scènes de Sex Education que j'ai trouvé drôles, hilarantes, que j'avais jamais vues, où je me dis waouh, ils ont osé quoi, montrer, enfin Eric qui donne des cours d'éducation sexuelle à ses petites camarades, il explique à ses copines comment on fait une bonne fellation, hein, ce qui est très drôle parce que lui-même en fait ne sait pas vraiment faire de fellation, et tout le monde finit par vomir. C'est, pour le coup, bon, on n'est pas dans la poésie, mais c'est très très drôle quoi. Donc c'est à la fois une série qui est touchante, pédago, qui a ses moments de, effectivement, comme tu le dis, tu l'as très bien exprimé Julia, de sensualité et de poésie, et qui est aussi très drôle et qui va aussi dans des endroits où on pourrait se dire oulala, et en fait non, c'est toujours bien fait quoi.
Et Florian, tu parlais de l'inclusivité. Ce qu'on a appris un peu après, c'est qu'il y avait des coordinatrices sur le plateau de tournage qui avaient pour vocation donc de s'assurer que les acteurs et actrices, qui sont notamment assez jeunes, soient confortables avec les scènes de sexe.
Ouais, justement, il y a une vidéo qui est passée récemment, justement, montrer que ils avaient fait apparemment des bruits d'animaux, justement, pour se détendre avant les scènes de sexe, pour se mettre à l'aise, avec justement l'idée de faire une scène où ils se mettent littéralement à nu. Et je trouve que ça reflète un peu justement l'impact de la série où c'est une série donc très drôle, et par l'humour, en fait, je pense que c'est ça qui décomplexe un peu, qui démystifie le sexe, le rapport sexuel, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc dans les coulisses, c'est ce que nous on voit après à l'écran, en fait.
Et tu penses que c'est bien, du coup, d'avoir recours à ce genre de coordinatrice, parce que HBO a fait la même chose, donc pour ces séries qui sont connues pour avoir pas mal de scènes de sexe. Est-ce que il faudrait qu'il y ait ce genre de poste maintenant, de manière pérenne, sur les plateaux?
On se demande pourquoi ça n'existait pas avant, en fait, surtout.
Ouais.
C'est ça la question. Ouais.
Parce que les actrices n'osaient pas dire qu'elles étaient mal à l'aise ou que. Mais clairement, oui, c'est la même. En plus, c'est Alicia Rodis qui était sur The Deuce et qui a ensuite été engagée par Netflix sur Sex Education. Moi, je pense que c'est un métier qui va. Enfin, là, qui est avant-gardiste du côté des séries et qui va se déployer au cinéma partout. C'est comme un chorégraphe de baston.
C'est une choré, quoi.
Mais là, c'est une chorégraphie, le sexe. Et j'ai lu des articles sur ce sujet, et ce que disait Alicia Rodis, c'était intéressant aussi, parce que tout de suite, on imagine bien les réalisateurs, notamment, dire qu'il n'y a plus de liberté de spontanéité si on fait appel à une coordinatrice d'intimité. Mais en fait, quand tu sais ce que tu veux dire dans une scène de sexe, il n'y a pas de problème. C'est ce que disait David Simon aussi, qui a dit quand même qu'il ne voulait plus faire de scène de sexe sans coordinateur ou coordinatrice d'intimité. Donc en fait, si tu sais ce que tu veux dire à travers une scène de sexe, il n'y a pas de souci, la coordinatrice, elle sera là pour t'aider, pour rassurer les acteurs et les actrices.
Moi, il y a un côté dans la série qui m'a paru important pour cette notion de safe, hein, d'environnement sain, c'est le fait qu'elle a l'air quand même relativement intemporelle. Moi, c'est un tout petit peu ce qui m'a gêné, c'est qu'on est dans un lycée, on s'est... avec des gens qui portent des vêtements de je ne sais quelle époque, dans un qui ne parlent pas vraiment de la pop culture actuelle, qui font pas de référence vraiment au monde actuel. Est-ce que ça c'était un point positif pour toi, Julia, ou est-ce
on sait pas non plus où ça se passe en fait.
Ah non, c'est, oui, voilà. Ça, c'est, mais du coup, est-ce que on n'a pas un tout petit peu cette impression de bulle filtrante, de tout le monde est gentil, tout le monde est safe, tout le monde est inclusif, mais c'est parce qu'ils sont dans une bulle.
Tout le monde n'est pas safe parce que Eric se fait quand même casser la figure.
Maëve, c'est une scène très violente, mais du coup presque un peu. Je trouve que elle s'inscrit vraiment, on prend contre-pied de.
Ouais. Après, on ne sait pas ce qui se passera dans la saison 2. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des infos ou pas, mais Maëve, elle vit dans un mobil-home. Il peut lui arriver n'importe quoi, n'importe quand. Son frère est un délinquant. La jeune fille dont j'ai oublié le nom qui habite dans cette si belle maison, dont les parents sont généralement absents et elle organise des travaux dirigés le soir où tout le monde prend de la drogue, il va forcément se passer quelque chose à un moment donné. C'est safe, mais en même temps, c'est pas si safe que ça. C'est-à-dire que l'extérieur, effectivement, ça donne l'impression d'être une bulle, mais l'extérieur, c'est la membrane est fine et à mon avis, elle peut être facilement très poreuse. Effectivement, c'est loin de la ville, il faut prendre le bus, un bus dont l'arrêt est en pleine cambrousse, mais l'extérieur est pas si loin et il peut devenir très agressif. Mais j'aime bien cette idée-là parce que parler de la sexualité, particulièrement à destination des adolescents, c'est quand même quelque chose d'extrêmement violent. Les parents souvent savent pas comment s'y prendre. Ils regardent des films qu'ils devraient pas regarder sur YouPorn ou ailleurs à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est des gamins qui sont à 14 ans, qui entrent au collège et qui ne savent de la sexualité que des histoires de sodomie ou de choses comme ça, ou double pénétration. Il y a quand même des histoires catastrophiques tout le temps. De mauvaises expériences ou de.
Tu penses que cette série peut aider à faire un.
Moi, je pense
bon
que cette série, elle peut aider à repoétiser un univers qui a été vraiment malmené par le web, notamment ces dernières années. Et je pense que c'est un peu l'objectif du truc, d'ailleurs.
Bah, ce qui va être intéressant maintenant pour nous, c'est de partir un petit peu dans l'univers audiovisuel et de regarder un peu ce qu'ont fait les séries avant et comment Sex Education vient un peu casser tout ça. Alors je vous ai choisi un extrait de Skins, je pense qu'on n'entendra absolument rien, mais imaginez deux adolescents, une scène de sexe.
You don't give a fuck about anything, do you?
Nope. I don't mean to be pushy. I'm just sitting for the pussy.
Wait, hang on. Wait, there's something here. Oh. Oh. What the fuck?
Alors voilà, c'était Cook et Effie dans la saison 3 pour les connaisseurs et connaisseuses de Skins. Moi, je l'ai choisi cette scène parce qu'elle est, elle est un peu symbolique de ce qu'était Skins à l'époque. C'est-à-dire qu'on a mis en avant pour son réalisme, pour la qualité, la manière dont est montré un peu les adolescents de cette époque-là. Les adolescents avaient des relations sexuelles, mais c'était un peu toujours pareil. Beaucoup de pénétration, beaucoup de va-et-vient, et puis c'est marrant. Et puis de toute façon, le sexe n'a pas vraiment d'importance. Et puis on en parle beaucoup plus que on met pas vraiment des mots plus loin que ça. Est-ce que vous avez regardé Skins? Est-ce que vous avez ressenti un peu cette différence-là dans la manière dont c'était représenté à l'époque?
Bah, j'ai l'impression, moi, dans Skins, qui avait été un petit peu mis en avant, c'était plutôt le côté drogue, fête et le côté globalement je m'en foutiste. Ouais, ça, de la jeunesse, en fait, qui s'en fout totalement de l'école et qui veut juste profiter, être avec ses potes et faire des conneries. Et c'est vrai que le sexe, j'ai l'impression, dans Skins, ça passait plutôt en second plan, en fait. C'était plus quelque chose d'anecdotique qui faisait en soirée parce que, voilà, il y avait une opportunité avec telle fille ou tel garçon. Et c'était pas quelque chose qui était mis en avant et pas du tout, par exemple, niveau contraception ou tout ça, c'était quelque chose qui n'existait pas, en fait.
Je suis pas sûre qu'on ait vu une capote. Non, pas du tout. Pendant les 7
ou alors c'était pour une blague. mais c'était pas une capote qui allait être utilisée.
Et puis même, c'est des gens très jeunes, en fait, qui ont des relations sexuelles. Ils sont censés être au lycée.
Donc, 15-16 ans, 15, vraiment, début lycée. Ouais.
Moi, ça m'avait surprise, comme les enfants de Julia. Je me disais, mais qui sont ces gens qui ont tellement de sexe dans leur vie? Moi, je joue au Playmobil dans ma chambre.
À 16 ans, tu joues au Playmobil dans ta chambre?
Je joue au Playmobil dans ma chambre.
Moi, je trouve que c'est un âge...
On n'est pas précoce, Marie.
Non, mais c'est un âge aussi où si tu peux avoir des premiers, en tout cas, sans forcément avoir une relation sexuelle complexe. C'est les âges quand même où ça commence, tu commences à aller vers ça. Non, en fait, Skins aussi parlait quand même d'une... Enfin, les gens ont tendance à oublier, ça parlait d'une certaine frange des adolescents, quoi. C'était beaucoup des adolescents anglais dans une ville, je sais plus dans quelle ville c'était.
Bristol.
Qui était un petit peu... Enfin, les parents étaient totalement démissionnaires, qui étaient laissés pour compte, qui faisaient un peu leur vie de leur côté.
Ouais, mais on a quand même dit que ça représentait quelque chose.
C'est une certaine adolescence, mais pas franchement la majorité des ados, je pense.
Les jeunes font des skins parties.
Oui, parce que c'était trash et sulfureux et que ça faisait peur à tout le monde, donc c'était pour faire un petit peu le buzz, mais pour moi, Skins, c'est une série vraiment sur une partie de l'adolescence, et effectivement, c'était assez réaliste, et cette partie-là, enfin, ces adolescents qui ont vécu comme ça, effectivement, les relations sexuelles, c'est... Voilà, s'ils s'interrogeaient pas dessus, et la série le montre très bien.
Alors, je pensais ça, et j'ai regardé de nouveau l'épisode 1 récemment, et en fait, tout est centré autour de Tony qui essaye de faire perdre sa virginité à Sid, son meilleur ami. Et du coup, c'est vraiment tout autour de ça, et il lui dit, la mission aujourd'hui, c'est on va trouver une fille qui sera assez bourrée pour accepter de coucher avec toi. Et j'ai fait, waouh, mais la série que j'aimais vraiment bien, elle a aussi son lot de problèmes. Alors, il ne doute pas du consentement de cette fille en question, mais c'est quand même, faut qu'elle soit assez bourrée parce que toi, sobre, t'arriverais jamais à pécho personne. Et tout est quand même, tourne autour de ça, sans vraiment qu'on parle de la sexualité, des organes génitaux, des pratiques, du consentement.
Alors, The Skins, je n'ai vu que la saison 1 parce qu'après, il y avait eu ce changement de casting que j'avais trouvé assez déplaisant.
C'est toutes les deux saisons, ça change.
Et j'en garde le souvenir de quelque chose effectivement beaucoup plus réaliste, beaucoup plus volontairement réaliste et de beaucoup plus violent. Et cette violence-là, elle existe chez les ados. C'est justement la violence d'une adolescence dépoétisée, à la différence de Sex Education. Puis il y a un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure, permettez-moi de revenir deux secondes, c'est que l'importance de la parole dans Sex Education, qui n'existe pas, qui prévaut pas du tout dans Skins, où des ados qui essayent de communiquer mais qui n'y arrivent pas, il faut être bourré pour coucher, sinon on est trop inhibé ou trop... où on se trouve trop moche ou trop complexé. Donc, dans Sex Education, il y a le passage par la parole qui est très important. Et là-dessus, le personnage de la mère psy, pour qui tout n'est que parole, bien qu'elle s'envoie en l'air avec des mecs différents tous les deux jours, ça c'est très prédominant. Bah, en Skins, pas du tout.
Justement, je vois que t'as pas fait tes devoirs et t'as pas lu mon conducteur jusqu'au bout. Parce que... Il y a une partie entièrement sur la parole.
Merde.
Mais je pense qu'on va du coup juste enchaîner sur ça, parce que c'est bien. Sur le principe de la parole, moi, je me souviens, il y a quelques années, là, la scène de Vagina, où tout le monde se lève et dit Vagina, Vagina. Moi, ça m'a fait penser à Grey's Anatomy, qui est une série qui dure depuis, donc, du coup, 13-14 ans. Et au début de Grey's Anatomy, les personnages ne disaient pas Vagina. Elles disaient Vajayjay. C'était leur truc. Et c'était censé être drôle. Et du coup, on regardait ça, on disait, oh, c'est marrant. Elles disent pas vagin. Elles ont un mot spécialement pour elles. En fait, Shonda Rhimes a dit qu'en fait c'était que ABC ne voulait pas qu'elle dise vagin à la télé. Or, en ce moment, il y a eu du coup, moi j'ai regardé l'avant-dernière saison. On dit maintenant vagina. On n'a plus ce jeu de mots. On n'a plus ce jeu sur les mots. Et ce qui montre qu'en 10 ans, en fait, même la télévision a commencé à accepter qu'on a le droit de dire ces mots. Non, c'est pas d'accord.
Non, si après pour avoir lu sur l'histoire du vajayjay, en fait ce que Shonda Rhimes explique aussi, c'est que elle avait utilisé le mot vagin, mais trop de fois selon la FCC, quoi, la Federal Communication machin, qui avait estimé qu'elle avait déjà dit ça une dizaine de fois dans les épisodes et que donc ça suffisait là, c'était trop. Donc c'est comme ça que derrière elle s'est dit bon bah alors comment on va faire pour en parler, et qu'elle a inventé le vajayjay, quoi.
Okay.
Mais bon, de toute façon, oui, ce que tu dis est vrai, hein, d'une manière générale, on a vachement évolué sur le langage. pardon, et notamment l'anatomie féminine. Parce que moi, je me souviens par exemple d'une série adolescente qui était beaucoup dans le langage de la sexualité, Dawson, qui était une des rares séries qui parlait vraiment sexualité. Dès le pilote, Joey dit à Dawson qu'il a des organes génitaux. Elle lui demande combien de fois il se masturbe par jour. Donc, ils sont très obsédés par ça dans Dawson. Et ils parlent et ils disent le mot pénis, mais dans mon souvenir, ils ne disent pas le mot vagin. Très, très, très rarement. Et donc là, je pense que c'est vraiment parce qu'on est dans la troisième vague du féminisme et dans le mouvement post-MeToo que la parole se libère au niveau de l'anatomie féminine aussi. Et c'est pour ça que des séries comme Sex Education s'inscrivent dans ce mouvement et que Grey's Anatomy se remet aussi à parler de vagin sans problème.
Et peut-être qu'un
le mot vagina, on l'entend pas mal dans Sex and the City, par exemple, qui est une série antérieure à MeToo, mais qui est une série qui émane d'HBO. et pas d'ABC, qui est quand même un énorme network et où il y a pas de les gros mots sont interdits, quoi. C'est un euro dans la tirelire à chaque fois, et effectivement les organes génitaux sont facilement considérés comme des gros mots. Et aujourd'hui encore. Et je suis pas sûre que dans l'Amérique de Trump, ça s'arrange forcément.
Ouais. Surtout Sex and the City, enfin, c'est une série qui est même orientée pour les femmes, comme Girls après aussi, qui parlait beaucoup justement de la sexualité féminine et qui mettait des noms sur les organes. Et pareil, qui est aussi quand même orientée pour les femmes. Donc le souci qu'il y a eu quand même ces dernières années, mais qui est un peu en train de changer grâce notamment à Netflix et d'autres plateformes, c'était qu'on parlait de vagin et de l'anatomie féminine, mais parce que on s'adressait à des femmes. Ouais. Il y avait ce côté, peut-être que des mecs, ah non, ça va les rebuter, ou il y avait, je sais pas si c'était encore peut-être le mystique de la femme qu'on voulait préserver, ou si c'est peut-être aussi justement la peur de perdre justement une partie de l'audimat, quoi, en faisant ça, je sais pas.
Oui. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on est toutes contentes d'entendre le mot vagin, alors qu'en fait, on parle d'une vulve. Enfin, je pense que dans 10 ans, du coup, on arrivera à poser le bon terme, parce que quand on parlait d'une photo de vagin, en fait, non, c'est une vulve. Donc, le vagin est une cavité. On fera un podcast sur l'éducation sexuelle. Pour revenir, du coup, ce qui est marrant, dans ce qui émane quand même, c'est qu'on voit, on parle de séries un peu pour filles, de séries un peu pour garçons. Moi, j'ai été un peu surprise par la sortie de Big Mouth, c'est une série animée sur Netflix il y a un an, créée par Nick Kroll, qui parle de son adolescence, donc clairement de son éveil sexuel, donc à travers son point de vue certes, mais du coup on retombe toujours un peu dans la même chose, du personnage masculin, le jeune enfant qui découvre qu'il a un pénis, qui bande tout le temps, qu'il ne pense qu'à des seins en permanence. Il y a un ou deux épisodes sur une fille qui a ses règles, parce que pour montrer qu'on n'est pas trop machiste quand même. Mais moi, il y a un truc où je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une série qui parle de l'éveil sexuel des femmes, des jeunes filles. Ce sera ça notre extrait.
La petite maison dans la prairie, peut-être.
Non, mais vous voyez où je veux en venir.
Il y avait eu peut-être sur Netflix récemment Everything Sucks, qui avait été annulé au bout d'une saison.
Exact, sur une fille.
Qui avait, je crois, du coup, genre 14 ou 15 ans pour le coup, c'était début lycée.
Et tu peux nous raconter le pitch ?
Ouais, donc du coup, c'était dans les années 90, tout début des années 90.
96.
Et donc, c'était centré sur une bande un peu de geeks, un peu marginaux dans leur lycée, qui, pour essayer de profiter de leurs années, se mettaient avec le club d'audiovisuel pour créer un petit film. Et du coup, après, il y avait tout le côté...
Et surtout, il y avait ce personnage féminin, donc...
Personnage central, en plus, c'était le personnage central féminin principal.
Jeune, qui a des désirs en voyant des magazines féminins, des magazines de femmes à poil. Enfin, ouais, moi, ça a fait exploser mon cerveau quand j'ai vu ça. Je me suis dit, on ne le voit jamais, et personne ne le verra plus, parce que ça a été annulé. Parce que tout le monde s'en fout, en fait, des lesbiennes. Coucou. Moi, il y a une série que j'aime beaucoup parce qu'elle met des mots sur les choses. Elle s'appelle Crazy Ex-Girlfriend et elle a un très très grand rôle dans la manière de représenter les choses. Et là, par exemple, je vous ai choisi un extrait où elle parle d'infection urinaire. What's that burning feeling every time you pee? Well, that's how it goes after you have so much awesome sex with me. I gave you a UTI. Yeah, I gave you a UTI. My sweet love injection caused a urinary tract infection. I'm just that good, I didn't even try. I gave you a UTI.
Okay, so it's not really a comment on the quality of the sex, as much as a lot of sex has been happening, and there's just a very natural transfer of bacteria
to... Don't ruin this for me!
C'est typique Rachel, de Rachel Bloom de vraiment montrer parler de sexualité, parler des problèmes qui vont avec la sexualité. Dans son premier épisode pilote, elle se montre en train de s'épiler entièrement pour un date alors que le mec en face est juste passe un coup dans ses cheveux et sort. Marion, est-ce que toi, moi je sais que t'es fan de Crazy Ex-Girlfriend, mais au-delà de juste vraiment le principe de la série, il y a quand même quelque chose dans mettre des mots sur les choses, mais sur tout ce qui dérange, quoi. Elle dit tout.
Ouais. Et là, pour le coup, les tabous, elle y va, quoi. Moi, je me souviens, un truc que j'ai adoré, c'est la chanson Période Sexe,
où elle parle de sexe pendant qu'on a des règles.
Voilà, pendant les règles. Et en fait, elle a été, si je me souviens bien, elle a quand même été mi-censurée sur ce passage-là. Elle pouvait pas dire tout ce qu'elle voulait sur cette scène. Voilà. Donc, en fait, elle a balancé le clip en entier sur, qu'elle a pas pu montrer dans l'épisode, sur YouTube, et le clip a des millions et des millions de vues. Et là, vraiment, c'est un tabou, quelque chose dont on ne parle quasiment jamais, quoi. Le sexe pendant les règles. Et pourtant, on sait très bien que ça existe dans la vie et qu'il y aurait des... Voilà, il y a des manières, il y a des choses à faire. J'espère que Sex Education le fera en saison 2. Mais c'est vrai que Rachel Bloom, en plus, un peu, enfin, à sa manière, hein, mais elle, sous un humour dévastateur, en fait, elle te place à chaque fois le curseur toujours plus loin, ce qui est génial, quoi.
C'est une représentation, enfin, que moi, que j'avais jamais vue. À part maintenant dans Sex Education, pour moi, Rachel Bloom, alors c'est vrai que le problème de Rachel Bloom, c'est qu'elle est sur la CW, qui est un network, et elle fait très très peu d'audience. Donc est-ce que là, on n'est pas dans la victoire de Sex Education, ça passera pas par Netflix, par ses 139 millions d'abonnés, par le pouvoir de pouvoir toucher. Toi, tu dis tu l'as regardé avec tes ados, est-ce que tu aurais regardé une série que tu devais télécharger sur la CW?
Je ne l'ai pas regardé avec mes ados, parce que alors, mon tabou à moi, c'est justement de ne pas regarder ce genre de programme en famille avec mes ados.
Très sain.
J'ai regardé effectivement
Marie
la série.
Marie adolescente est très.
Voilà. Et ensuite, j'ai dit à mes fils, si vous ne savez pas quoi regarder ces jours-ci, jetez un œil sur Sex Education et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà.
Et là, du coup, l'impact de Netflix là-dedans?
L'impact de Netflix là-dedans, c'est sa gigantesque, c'est son gigantesque pouvoir de frappe. Et mais effectivement, c'est une série qui serait pas diffusée sur ABC, qui serait pas diffusée sur Fox, qui sera peut-être même pas diffusée sur France 2 ou France 3. Enfin,
c'est paradoxal. Vas-y, dis-moi.
Non, j'allais dire, en fait, c'est toujours bien d'avoir un contrepoint. Donc, on est content, mais quand, enfin, il y a encore beaucoup de boulot quand on voit qu'une série comme You, qui met en avant un stalker misogyne, est à plus de 40 millions de vues. C'est un énorme succès pour Netflix. Ou quand on voit les scènes de sexe dont tout le monde se souvient dans Game of Thrones, qui sont pour la plupart des scènes de viol, il y a encore beaucoup de boulot pour les séries. Et effectivement, il y a un truc, les séries de network et à la télé française aussi, il y a encore plein de choses à inventer, en fait, pour promouvoir d'une certaine manière, et avec toujours en ayant aussi une ambition artistique, une sexualité, voilà, plus égalitaire, plus bienveillante, changer un peu les schémas qu'on a acquis du porno, voilà.
Il n'y a pas, je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais je crois aussi, alors excuse-moi si je fais encore un bond dans le conducteur, j'espère que non.
On touche à la fin, malheureusement.
Je crois que chaque série raconte une histoire, chaque série a un point de vue. La sexualité est racontée du point de vue du jeune garçon, la sexualité est racontée du point de vue d'une troupe d'adolescents dans un lycée, la sexualité qui n'est pas racontée. Game of Thrones, par exemple, je ne veux pas la défendre cette série parce que je suis pas fan, mais je pense que il y a pas de point de vue quant à la sexualité dans Game of Thrones. Il y a juste une représentation de la sexualité qui s'inscrit dans une série qui au départ est écrite par un homme qui n'est pas censé. Il y a des grandes héroïnes féminines dans cette série et ça la sauve, je pense, pour les femmes. Mais ça peut pas être une sexualité du point de vue de la femme. Dans Game of Thrones, ça peut être qu'une sexualité, sauf peut-être dans quelques écarts, ça peut être qu'une sexualité vue par l'homme dans un monde dominé par la violence, par le complot, par la guerre, par le sang, par on éventre des femmes enceintes, on va pas parler de consentement quoi. Le consentement n'a pas lieu d'être dans Game of Thrones. Enfin, je crois.
Non, mais je demande pas ça. Hein, mais il y a quand même plein de types de. On a pas eu le temps d'en parler trop de Game of Thrones, mais il y a plein de types de scènes de sexe différentes dans Game of Thrones. Il n'y a pas que des viols d'ailleurs. Hein,
oui.
Donc je pense que quand même. Il peut y avoir différentes sexualités ont été montrées dans Game of Thrones. On a beaucoup reproché à Game of Thrones le fait qu'il y ait beaucoup de scènes de viol, qu'elles soient d'un point de vue masculin, et qu'en plus, quasiment toutes les femmes puissantes dans Game of Thrones ont dû se faire violer pour derrière être puissantes.
Oui. Ouais. Du coup, en termes de, en fait, c'est le faire violer. Je me suis dit, en fait, non, parce que je pensais à la scène de viol de Sansa qui a été filmée, où en fait, oui. On filmait la réaction de Sion. On filmait le regard. Donc, en fait, même son viol, on l'a vu à travers le regard d'un autre homme. Moi, ce qui m'interroge un peu, c'est le côté. Vous dites, Sex Education pourrait pas être sur un network. Moi, je suis pas persuadée. Je trouve que Sex Education n'est pas si transgressive. Certes, elle montre beaucoup de choses. Elle montre une vulve. Elle montre une adolescente qui est en train de se masturber. Mais il y a des séries comme celle que fait Shonda Rhimes, que ce soit Grey's Anatomy ou que ce soit How to Get Away with Murder, qui ont montré une sexualité épanouie ou en tout cas des personnages qui s'approprient leur sexualité. Je pense au personnage gay de How to Get Away with Murder. Je pense à la héroïne à qui on fait un cunni. Enfin, des choses qu'on ne pensait pas avoir il y a 10 ans et qu'on voit quand même maintenant sur une chaîne comme ABC. Je sais pas, Florian, tu l'avais vu cette saison 1 ?
Ouais. C'est vrai que pour le coup, après Shonda Rhimes, ça reste une exception quand même sur les chaînes publiques. Netflix, je pense.
Oui, mais elle a 1000 séries.
Oui.
Donc
c'est vrai.
On va dire qu'elle fait de l'audience, elle fait du volume. Quoi.
Je rappelle que Shonda Rhimes maintenant est sur Netflix.
Et en plus, elle est en train de développer une dizaine de projets.
Donc
sur
on attend
de
voir ce qu'elle va donner avec encore plus de liberté que ce qu'elle a réussi à obtenir. Quoi.
Ouais.
Mais Netflix, quand même, bon, c'est vrai. Sex Education n'est peut-être pas aussi transgressive que ce qu'on peut croire. Elle est progressiste, mais elle n'est pas forcément transgressiste. Par exemple, Netflix, ils ont quand même produit Sense8, quand même, qui était quand même assez bluffant, je trouve, au niveau de la sexualité et ce rapport un petit peu qui outrepassait juste le rapport physique. C'était aussi un rapport plus psychologique qu'ils avaient entre eux, qui dépassait le côté hétéro, homo, tout ça. C'était quand même assez. C'est une vision originale, je pense, qu'on n'aurait pas pu retrouver pour le coup sur un network tout public.
Mmh. Et là, pour le coup, il y a à la fois la parole, mais aussi les images. On a des gods, on a des partous, on a des.
Ouais, des choses que tu verrais pas dans une série de Shonda Rhimes sur ABC.
Okay.
En fait, je suis d'accord. Shonda Rhimes, elle a vachement fait avancer les choses, mais comme elle est donc, elle est dans ce, quand tu travailles, quand tu fais des séries pour un network, tu peux pas montrer tout. Tu peux pas. Tu suggères un cunni, tu suggères qu'un homme est en train de faire une fellation à un autre homme. Tu montres, avec du recul, quoi. Et tu mets pas forcément, au niveau des mots. Enfin, c'est un bon compromis. Hein. Et je pense qu'elle a fait beaucoup pour faire avancer notamment la représentation des sexualités queer, à grande, grande échelle.
Totalement.
Donc on a complètement besoin des deux pour moi. Hein, on a besoin de Sense8.
Cheval de Troie.
On a besoin de Grey's Anatomy aussi.
Déjà fini.
Et ouais, un épisode déjà arrête, c'est déjà fini. Mais vous avez plein de conseils séries maintenant pour tenir jusqu'à la semaine prochaine. Vous pouvez aussi rattraper tous les anciens épisodes sur les plateformes de podcast habituelles, iOS et Android, ou sur le site de Binge Audio. Merci à Marion, Florian et Julia pour leur participation. Merci Quentin Bresson, le maître du son. D'ailleurs, ça m'a fait rire son à la technique. Et on vous dit la semaine prochaine, enfin la vérité sur un sujet qui fait débat. Comment prononce-t-on Charmed, je ne sais pas, non. En vrai, rendez-vous pour 30 minutes de débat sur l'image de la sorcière dans les séries. Suivez-nous aussi sur Facebook et Twitter, c'est là où on fait beaucoup de blagues. Des bisous.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, what? Wait, wait, wait.
What?
That's the last one.